Fait chaud, hein? Comme médiathèque, je sais pas ce que ça vaut ici, mais comme sauna, c'est comme ça. Vous m'entendez bien? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le regretter. Amis bibliothécaires, ou autres d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il y en ait dans cette salle qui est un vrai métier. Bonjour. J'ai traditionnellement l'habitude de commencer chacune de mes interventions en public par un tonitruant « Vos gueules, je commence ». Mais vu le contexte huppé dans lequel j'opère aujourd'hui et le public culturé auquel je m'adresse, je me contenterai cette fois d'un simple chut. Les organisateurs de ce sympathique pique-nique bavard ont eu la folie de me demander mon avis sur le sujet suivant, les pratiques participatives dans les bibliothèques. J'avoue que, contrairement à, j'imagine, nombre de personnes présentes dans cette salle, je ne suis absolument pas spécialiste de ce sujet. Mais comme je fais partie de cette génération qui a un avis sur n'importe quel sujet, un avis péremptoire et citoyen, c'est d'ailleurs à peu près la même chose, un avis que je donne toujours sans m'être jamais documenté préalablement dans une bibliothèque, je n'ai absolument aucun scrupule, aucun, à la ramener devant vous cet après-midi. Mais commençons par le commencement et abordons tout de suite le sujet qui fâche, le sujet de fond, la matrice, à savoir la bibliothèque. Qu'est-ce qu'une bibliothèque? C'est un endroit où on trouve des livres et donc, par extension, un endroit où n'entre jamais un joueur de football. À titre personnel, le concept de bibliothèque me renvoie à mes jeunes et douces années de collège. Et à ce lieu étrange, triste, sale et mal éclairé, que l'on appelait, et que l'on appelle toujours d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas tous encore à l'heure actuelle désamiantés, le CDI. Le CDI qui ne désignait pas alors ce type de contrat de travail voué à la disparition pour permettre à M. Macron de s'acheter des chemises, mais qui désignait alors un centre de documentation et d'information. Sauf que nous, collégiens, on se foutait complètement de se documenter ou de s'informer. Nous, tout ce qu'on savait, c'est que le CDI était un endroit calme et donc qu'il fallait y aller pour faire du bruit. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est peut-être à mettre sur le compte des hormones, mais c'était toujours plus éclatant de faire du bruit dans un lieu calme que dans un lieu où il y avait déjà du bruit. Donc, nous faisions du bruit au CDI. Ce qui provoquait à chaque fois la colère de la brave dame du CDI, dont le nom scientifique était la documentaliste et dont le nom commun était en général Marie-Laure. Une dame bien gentille, mais qui portait, été comme hiver, un pull en laine absolument intolérable, tant au niveau de la couleur qu'au niveau du parfum, à tel point que certains jours, on se demandait si le mouton qui lui avait servi à faire le pull n'était pas venu avec elle sous le bureau. Marie-Laure, donc, nous enjoignait soit d'arrêter de faire du bruit, soit de sortir. À ce moment-là, nous ne faisions ni... Nous avons compris la différence entre aboyer et mordre. Parfois, évidemment, nous empruntions un livre, une bibliothèque verte, ou un livre de la bibliothèque des enfants, ou encore un numéro de la Hulotte. La Hulotte, cette brochure bavouille et animalière, où même les hérissons avaient les cheveux longs. Cette brochure qui nous expliquait que si on recueillait un bébé chouette et frais tombé du nid, celui-ci mourrait dans d'atroces souffrances. Ce que nous apprenions, évidemment, après bébé chouette et frais en question. Des années de traumatisme grâce à la Hulotte. Merci la Hulotte. Des années après, je la porte encore la Hulotte. Oui, désolé, ce jeu de mots est particulièrement médiocre. Mais c'est Bruno qui m'a dit par moment de faire des trucs un peu faciles parce qu'il y a dans cette salle des gens qui viennent du Limousin. Non, comprenez-moi bien. Non. Comprenez-moi bien, je ne veux pas faire ici de ségrégation, je ne veux pas faire ici de discrimination. Ici, maintenant, je suis bien conscient que tous, ici, dans cette salle, maintenant, nous sommes d'abord et avant tout des néo-aquitains. En tout cas, nous lisions tout à l'école, sauf ce qu'on nous demandait de lire. Et là, je voudrais être sérieux quelques secondes. Je ne suis pas venu ici pour régler des comptes, pour demander des comptes ou pour me faire plaindre, mais je tiens quand même à témoigner, car c'est important. J'étais au collège entre 1986 et 1990. Oui, je sais, madame, je fais bien plus jeune. On se voit après. Et pendant cette période, on m'a obligé à lire du Sarraute. Non, non, pas du Nathalie Sarraute. Du Claude Sarraute. On m'a obligé, alors que j'étais petit, à lire de pleins extraits de « Allô, Lolotte, c'est Coco !» Je vous jure que c'est vrai. Si, si, oh, je vous assure, si, si. Étonnez-vous qu'après ça, à la puberté, notre génération soit devenue grunge. Non, je veux juste dire à ceux qui écrivaient les programmes de français de cette époque, messieurs, dames, vous aurez beau vous cacher derrière vos tangs quechua ou dans le jury du livre inter, un jour, l'histoire vous rattrapera. Mais je m'égare. Bibliothèque. Alors, ce n'est qu'après cette période du collège, bien après, quand je suis devenu cet être jeune, déterminé et moitié saoul la plupart du temps, que l'on nomme étudiant, porteur d'espoir toujours et de maladies sexuellement transmissibles parfois. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la beauté, la grandeur et surtout la gratuité de la bibliothèque. Je m'en rappellerai toujours. La première fois que j'ai poussé la porte de la bibliothèque universitaire de Poitiers, 3 jours avant mon partiel, ça a été un choc. Toutes les jolies étudiantes que je cherchais depuis 6 mois étaient là. Et tous les livres au programme que je cherchais activement depuis 2 jours étaient sortis. J'ai donc révisé avec ce que j'ai trouvé sur place, ce qui explique pourquoi, à mon examen, dont le thème était « Diplomatie et essor économique à la fin du XVIe siècle en Espagne », oui, j'étais étudiant en histoire, à l'époque je ne m'aimais pas beaucoup. C'est pourquoi, à ce thème, j'ai répondu par un plan en 3 parties. Première partie, les 7 boules de cristal. Deuxième partie, le secret de l'espadon. Troisième partie, le parfum de l'invisible, parce qu'il faut toujours finir par la partie la plus excitante. C'est une question de méthodologie. Et puis, après cette période étudiante, j'ai grandi, j'ai vieilli, et comme tous les gens qui réussissent, j'ai quitté la ville et ses sales odeurs de gazole pour la campagne et ses 12 odeurs de colza. Et là, j'ai voulu aller à la bibliothèque de mon nouveau village. Et c'est là que j'ai compris que, contrairement à ce qu'on nous raconte, et en accord avec l'imaginaire de M. Herbert J. Wells, la machine à remonter le temps existe bel et bien. En effet, qui se répartissait à peu près comme suit, 10% de rayon humour, avec très très forte dominante de Jean Amadou, 10% d'ouvrages religieux, avec entre autres la Bible en bande dessinée, pour les enfants, les personnes vraiment très très âgées et les adhérents du MoDem, 10% de littérature scientifique représentée exclusivement par des ouvrages de Robert Merle, c'est-à-dire rien, 20% de littérature à l'eau de rose, façon Barbara Cartland, la Cougar et le Maradja, tout ça. Pour les enfants d'aujourd'hui, un album de Bécassine contre les pieds nickelés. Et les 50% restants concernaient exclusivement la littérature policière, dont 2/3 d'ouvrages d'Agatha Christie. D'ailleurs, détail édifiant, les 4 bibliothécaires présentes étaient toutes des sosies de Miss Marple. Elles m'ont d'ailleurs proposé une tasse de thé que j'ai refusée, j'avais trop peur qu'il fût empoisonné. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème dans notre pays entre les Français et leurs bibliothèques. Une fracture impayée. Oui, ça c'est toujours pour les gens du Limousin. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on m'a proposé de rejoindre la commission interministérielle référence 791-430-944 PART consacrée aux démarches participatives, je n'ai pas pu refuser. Par éthique, d'abord, évidemment, mais je n'ai pas pu refuser non plus puisque, comme vous l'aurez compris depuis quelques minutes, je suis un humoriste ringard et que tous les ringards finissent dans une commission interministérielle. Surtout depuis qu'il n'y a plus de place au Conseil économique et social. J'ai donc partagé ce lourd fardeau avec 2 autres ringards Il y avait à ma gauche, à la table de la commission, un sénateur retraité. Si, si, un sénateur retraité. Parfaitement, ça existe. Il n'y a que lui, hein, c'est le seul. Mais il faut dire, il est très, très, très vieux. Il a 108 ans. Et il n'arrive plus à digérer tous les déjeuners qui lui sont payés par les lobbies. Alors, il a pris sa retraite, pas le choix. Et à ma gauche, toujours, puisque moi, je n'ai jamais de droite, il y avait une actrice de films d'art et d'essai qui n'avait plus tourné depuis 15 ans, sauf dans des pubs. Bon, je ne citerai évidemment pas leur élégance, hein, vous comprenez. Et donc, Charlotte Rampling, Jean-Pierre Raffarin et moi, nous avons potassé sur le sujet et nous sommes en mesure de vous proposer quelques mesures radicales afin de booster un peu ces bibliothèques poussiéreuses qui n'attirent plus que les enseignants célibataires et les SDF en recherche d'un peu de chaleur. Et réciproquement d'ailleurs, qui n'attirent plus que les SDF célibataires et les enseignants en recherche d'un peu de chaleur. Première mesure, demandez aux gens ce qu'ils pensent des livres de la bibliothèque, même et surtout s'ils ne les ont pas lus. En effet, l'usager qui aura lu le livre en question aura un parti pris par rapport au livre, surtout s'il l'a aimé, alors que celui qui n'aura vu que la couverture aura un regard beaucoup plus frais et imaginatif. Il pourra évoquer le souvenir de Jean Valjean dans Les Trois Mousquetaires, se souvenir des multiples rebondissements dans la recherche du temps perdu, et même citer les meilleurs gags d'Hiroshima, mon amour. Cette pratique, dite du masque et la plume, déjà très souvent utilisée par la critique parisienne et la presse quotidienne régionale, permettra surtout, et c'est ça le plus important, d'ôter tout complexe d'infériorité à ceux qui n'ouvrent jamais un livre, ou pire, qui n'ouvrent que des livres d'Alexandre Jardin. Deuxième mesure proposée par la Commission, développer des ateliers de lecture à voix haute participatifs. Mais attention, attention, je vois déjà venir les tenants d'un insupportable académisme réactionnaire conformiste d'un autre âge. Il ne s'agit pas, pour les participants, de lire chacun un chapitre ou de camper chacun des personnages. Le capitaine Nemo pourrait-il avoir une voix rigolote? Françoise Sagan pourrait-elle avoir... Si, elle avait une voix rigolote. Autant pour moi. Non, notre proposition est beaucoup plus globale, beaucoup plus innovante, beaucoup plus moderne. Chaque lecteur dira un mot du texte avant de passer le livre à son voisin. Exemple, chaque lecteur dira un mot du texte avant de passer le livre à son voisin. La multiplicité des voix, la multiplicité des intonations, des intentions donnera à l'ensemble une sorte d'harmonie dissonante digne des plus beaux morceaux de Christophe Maé. Et cela en tenant compte d'un timing exigeant. Car les livres que nous vous proposons pour cette lecture sont « Guerre et paix »,« Les hommes de bonne volonté » et pour le jeune public « Lolita » de Nabokov. Les paresseux et les titulaires me diront « Mais de tels ateliers sont impossibles à mettre en place !» Je leur répondrai qu'en effet, comme je l'ai dit, c'est une réforme moderne. Rappelez-vous de la réforme des rythmes scolaires et démerdez-vous. Enfin, dernière mesure, un peu radicale, mais nous l'assumons, car elle nous paraît la voie idéale vers une parfaite bibliothèque du XXIe siècle. Ne pas hésiter, pour attirer le public, ou du moins pour ne pas l'effaroucher, à ne pas sacraliser le livre, à ne pas forcément l'exhiber de façon agressive et prétentieuse. Peut-être faudrait-il en présenter moins. Ou pas. Non, non, nous attirons votre attention sur le gain d'espace que peut présenter dans une bibliothèque la raréfaction des livres et des étagères. Cela pourrait permettre au public de se livrer à d'autres activités dans la bibliothèque. Il faut être ouvert, il faut être multidisciplinaire. Et pourquoi pas, mais pas de tabou, pas de tabou, n'ayons pas de tabou. Pourquoi pas un jeu de balle? Et oui, pourquoi pas du football? Oui, oui, voilà un sport populaire et participatif, parfaitement. Le football est un sport participatif. J'amène les crackers, tu amènes les bières. Une bibliothèque transformée en terrain de football procurera de nombreux avantages à ceux qui y travaillent et à ceux qui la fréquentent. Vous pourrez faire les fous sans qu'on vous reproche rien. Vous pourrez jeter des détritus partout sans qu'on vous demande de nettoyer après. Et on ne vous interdira pas pour des raisons de sécurité. Et tous les médias seront vos amis. Alors oui, évidemment, les mauvais coucheurs me diront « Et la culture dans tout ça ?» Ben oui, évidemment, la culture. Mais vous le savez, comme le disait un ancien ministre, quand j'entends le mot « culture », je sors mon Zadig et Voltaire. Vous ne savez plus où les classer, de toute façon, vos livres. À chaque rentrée littéraire, il y en a 5000 de plus. Bon, de toute façon, à notre époque, avec ce qu'on voit, vous savez, la bataille de la culture, vous n'êtes pas sûr de la gagner. Et finalement, ce n'est pas grave. Car en ce qui concerne la transmission de l'amour de la littérature, vous le savez mieux que moi, l'important, c'est de participer. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup. Merci Serge. Merci Lionel Bourg aussi en début de journée. Voilà, j'espère que cette journée vous a intéressé, vous a plu. J'espère qu'on en fera souvent d'autres. Il y a une visite de la médiathèque qui est prévue à partir de 16h30 si ça vous intéresse. Je remercie l'ENSIB et ce partenariat extrêmement intéressant avec qui on travaille. Les personnes de l'ENSIB ont dû partir, mais elles vous remercient beaucoup pour cette journée. Voilà, quoi d'autre. N'oubliez pas de créer vos groupes pour la voix des lecteurs, qui a été lancé récemment. Et puis, je vous donne rendez-vous sur le site du Centre du Livre pour qu'on puisse créer de nouvelles journées de formation et d'information. Merci beaucoup.